Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et nouveau rendez-vous, ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu nous voir, jour férié oblige, avec Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et notre dernière chronique qui était consacrée au Léonard de Vinci, c'était il y a 3 semaines maintenant. Vinci, artiste mais aussi scientifique et ingénieur, on l'a dit. On parle encore de science du coup aujourd'hui?
Si l'on veut, de science-fiction, c'est-à-dire surtout de littérature et de littérature populaire. Le récit de science-fiction étant un récit dans lequel la réalité présente est remplacée par une réalité imaginée reposant sur d'hypothétiques avancées scientifiques, soit dans le futur, on parle alors de récit d'anticipation, soit dans un présent transformé par une science imaginaire. Rajoutons que les récits de science-fiction sont souvent utilisés pour diffuser un message d'ordre philosophique. Mais n'anticipons pas, c'est le cas de le dire.
Évidemment, c'est bien joué. Ce sont les Américains les plus forts en la matière, me semble-t-il.
Aujourd'hui, peut-être. Surtout au cinéma ou en bande dessinée, mais le récit de science-fiction est né en Europe. Il y a bien longtemps, à une époque où la civilisation américaine elle-même n'était que de la science-fiction. Sans remonter jusqu'à l'Antiquité, qui produisait quantité de mythes, nous ne retiendrons que celui d'Icare et ses ailes d'oiseau. C'est bien dans l'Europe des siècles passés que le genre est apparu. Allons en Angleterre et au XVIe siècle. Francis Godwin est l'auteur d'un récit de voyage imaginaire intitulé « L'homme sur la Lune, The Man in the Moon », s'appuyant sur les découvertes de Galilée dont nous avons parlé ici même. Et au siècle suivant, c'est un Français dont le nom est bien connu, Cyrano de Bergerac, le vrai, pas le personnage qu'en a fait Edmond Rostand, qui, dans son histoire comique des États et Empires de la Lune, paru en 1657, se sert d'un récit de voyage intersidéral, bien sûr imaginaire, pour exposer des thèses scientifiques et philosophiques hardies pour l'époque.
Ah, la Lune, elle en a fait rêver quand même pas mal, et pas seulement des écrivains d'ailleurs.
Mais chez ces derniers, elle a été, jusqu'à une période proche de la nôtre, et même jusqu'aux aventures Tintin, l'image même d'un monde inconnu propice à tous les fantasmes.
Et je sens, je ne sais pas pourquoi, que vous allez nous parler d'un certain Jules.
Jules Verne.
Par exemple.
Comment voulez-vous qu'on l'ignore? En effet, on ne peut pas évoquer la création de mondes inconnus sans parler de ses aventures fantastiques, au premier sens du mot. De la Terre à la Lune, donc, mais aussi 20 000 lieues sous les mers, voyage au centre de la Terre. Si les moyens d'accès qu'il a imaginés pour atteindre ces différents mondes peuvent aujourd'hui nous faire sourire, on peut néanmoins affirmer qu'il a été un visionnaire. Et son sens du récit d'aventure et son imagination narrative sont un véritable enchantement. S'il n'y a pas chez lui de prétention philosophique, comme il y en aura un siècle plus tard chez l'Américain Bradbury et ses chroniques martiennes, ses descriptions des mondes sous-marins ou souterrains sont un vrai régal. Pour le plaisir, écoutons un extrait du Voyage au centre de la Terre publié en 1864. Alors, nous sommes effectivement dans les entrailles de la Terre où le narrateur et son oncle professeur sont sur les rivages d'une mer souterraine.
Mais à ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À 500 pas au détour d'un promontoire, une forêt apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage, et ils demeuraient immobiles, comme un massif de cèdres pétrifiés. C'était une forêt de champignons gigantesques, haut de 30 à 40 pieds. La lumière ne parvenait pas à percer la voûte qu'il formait et lorsque nous y pénétrâmes, un froid mortel nous saisit. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Plus loin s'élevaient par groupes d'autres arbres au feuillage décoloré. C'étaient les humbles arbustes de la terre, mais ayant atteint ici des dimensions phénoménales. Des lycopodes hauts de 100 pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme les sapins des hautes altitudes. « Étonnant! Magnifique! Splendide !» s'écriait mon oncle. « Voilà toute la flore de la seconde époque du monde étalée sous nos yeux. »
Fantastique, en effet, mais à part Jules Verne.
Alors revenons en Angleterre, un demi-siècle plus tôt. Et si je cite le Prométhée moderne, je pense que ça ne vous dira pas grand-chose. C'est pourtant le sous-titre d'un des best-sellers de la littérature puis du cinéma mondial. Frankenstein, ça vous parle plus ?
Ça parle plus, hein.
Eh bien, cette créature monstrueuse qu'un savant suisse a fait surgir à partir d'un cadavre est née de l'imagination d'une femme, Marie Shelley, en 1818. Et c'est en Angleterre encore qu'autour de l'année 1900, un autre écrivain, H.G. Wells, publie des récits de science-fiction qui feront date, La guerre des mondes, La machine à explorer le temps, mais surtout, le plus connu peut-être, L'homme invisible. Ces incontournables de la littérature de science-fiction sont des œuvres d'Européens, qui bien sûr auront dans leur descendance quelques grands maîtres américains, comme George Orwell ou Bradbury dont nous avons parlé, et de nombreux cinéastes. Mais n'oublions pas non plus que le créateur de La planète des singes est le français Pierre Boulle dans les années 1960. Et même dans le cinéma, c'est en Europe que le film de science-fiction est apparu au tout début du XXe siècle. À ce micro, j'ai eu l'occasion d'évoquer Georges Méliès et son voyage dans la Lune en 1905, ainsi que le Nosferatu de l'allemand Murnau, un récit de vampires entre science-fiction et fantastique. La science-fiction est donc bien le prolongement créatif et poétique des découvertes que les siècles précédents avaient offert aux Jules Verne, Marie Shelley, Wells, et qu'ils ont su observer et réutiliser pour le plus grand plaisir des grands enfants que nous sommes restés, n'est-ce pas ?
Et on prend toujours plaisir à suivre ces aventures. Et c'est donc sur cette remarque réconfortante que va se terminer cette série consacrée à la science et à la pensée scientifique.
Dont le caractère européen, je l'espère, nous apparaît avec plus d'évidence.
Évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre nos aventures sur une autre thématique. On en saura plus la semaine prochaine ?
La semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.